Cela dit, bonjour Élisane.
Bonjour.
On va parler de handicap international, mais vraiment dans un sens large.
Oui, en fait, Handicap international qui vient de sortir une recherche comme quoi les armes explosives ont été utilisées sans précédent en 2023, ce qui quand même est une très mauvaise nouvelle là, oui. Parce que les civils représentent 90% des victimes.
Des armes explosives, surtout quand c'est utilisé dans les villes.
Oui.
Là, on peut penser que ce qui arrive dans la bande de Gaza, ça fait grimper les chiffres. C'est ce genre de conflit-là, meurtrier, mais en même temps, ça tue des gens, mais ça crée encore plus de misère parce que des personnes peuvent survivre, mais là, ils sont estropiés.
Oui, on parle donc du nombre de civils tués qui est en hausse de 122%. Mais d'une hausse de 12% contre les infrastructures de santé et une hausse de 80% des incidents contre les structures d'éducation ou d'aide humanitaire. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'effectivement, ça laisse beaucoup de gens en situation d'handicap dans des pays qui, malheureusement, ravagés par la guerre, n'ont pas nécessairement des infrastructures de services pour aider ces gens-là. Donc, effectivement, d'un côté, il y a les gens qui sont morts, mais il y a aussi toutes les gens qu'on laisse à eux-mêmes parce qu'on n'est pas capable de les servir et de les aider au niveau de leur handicap. Et évidemment, là, c'est particulièrement des gens qui n'avaient pas d'handicap avant de se retrouver victimes de ces armes-là et donc qui doivent s'adapter à une nouvelle vie sans nécessairement avoir de ressources ou de services pour les aider. Donc, on peut imaginer à quel point c'est quelque chose qui est difficile pour ces gens-là, particulièrement lorsqu'on parle donc dans des villes en guerre.
Oui.
De la Palestine, on parle aussi donc du Liban, de la Birmanie, de l'Ukraine, du Yémen, de la Syrie, parce qu'en Syrie, on sait, ça continue quand même.
C'est comme s'il y avait une nouvelle façon de faire la guerre, là, qui était atroce. Je ne veux pas avoir l'air romantique, mais et là aussi, il y avait plein de gens qui mouraient et encore plus qui se retrouvaient invalides, pour utiliser le terme de cette époque-là. Mais jusqu'au 19e siècle, c'était les charges de cavaliers au milieu d'un champ.
Oui.
Mais ça, c'est plus ça aujourd'hui.
Non, c'est plus ça. On est capable de ratisser, malheureusement, très large avec des drones, avec des armes explosives qu'on envoie. Et il faut dire, en fait, aussi que dans le droit international, on n'a pas le droit d'attaquer
des civils,
on n'a pas le droit d'attaquer des emplacements médicaux, donc des hôpitaux par exemple, ou des écoles. C'est interdit. Ben, malheureusement, ouais. Là, vous voyez, entre autres en Palestine et un peu ailleurs, où aussi on fait fi de cette interdiction-là, alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus respecté. On voyait des gens, évidemment, là, déroger à la règle, là, mais c'était quand même des cas qui étaient exceptionnels, alors qu'aujourd'hui, on en voit énormément.
C'est devenu la norme.
C'est devenu la norme, et les médecins, évidemment, là, sont très insatisfaits de ça, parce que, bien sûr, il y a des gens qui sont en train de se faire soigner, des civils en train de se faire soigner, ou des enfants dans des écoles, évidemment, n'ont pas à subir les guerres qui sont des questions politiques. Mais en tous les cas, effectivement, là, les guerres sont de plus en plus sanguines d'un côté et d'un autre côté, de moins en moins, entre guillemets, là, respectueuses des droits.
C'est parce que les pays qui ne sont pas intéressés à respecter les lois se sont aperçus qu'ils pouvaient agir d'une façon presque impunément.
Oui.
Parce que c'est beau dire que le droit international interdit de le faire. Encore faut-il avoir des façons d'appliquer.
Il n'y a pas de coercition. En fait, c'est l'ONU qui s'occupe du droit international. Il faut savoir que l'ONU, malgré le fait qu'elle a plusieurs pays là, sous sa gouverne n'ont pas de pouvoir coercitif, donc n'ont plus rien faire à part lever le ton, blâmer, utiliser des mots synonymes au blâme.
Mais il y a beaucoup de pays qui sont comme des canards. Là. L'eau ruisselle sur leur dos, mais ça les affecte pas.
Ben,
à Oslo,
rendu là.
Ouais, à Oslo, il y a eu une réunion internationale pour discuter de la mise en œuvre d'une déclaration politique de novembre 22. il y a 4 ans, un an et demi, qui visait à mieux protéger les civils contre l'utilisation des armes explosives dans les zones peuplées. Alors, c'est bien beau, il y a 86 pays qui ont signé ça, mais Israël et la Russie ne l'ont pas fait. Et ben voilà, et puis ça donne ce que ça donne.
86, c'est pas beaucoup. Là,
86 de... pays, non, parce que dans le monde, il y en a à peu près 220-230, là, ça tourne autour de ça.
Oui, donc effectivement, là, c'est vraiment pas beaucoup. Et il y a beaucoup plus de pays que ça qui sont membres de l'ONU. Donc, il y a énormément de pays de l'ONU qui n'ont pas signé. Et effectivement, ça cause des problèmes.
Alors voilà, les guerres deviennent de plus en plus des sales guerres, dirons-nous. En Belgique, une problématique qu'on a retrouvée ailleurs aussi.
Oui, mais en Belgique, sans surprise, en fait... On a des problèmes avec les secteurs des maisons de repos et d'accueil des aînés parce qu'on manque de personnel.
Les maisons de repos, à ce que je comprends, en Belgique, est en fait une façon... Nous, on désignerait plutôt ça ici presque comme des soins palliatifs.
Oui.
Ou quelque part entre le CHSLD et les soins palliatifs.
Oui, donc c'est une maison où on va vivre ces derniers jours en paix. Mais effectivement, étant donné le manque de personnel, on a des difficultés à offrir des services qui sont adéquats.
Il y a deux problèmes. C'est que d'une part, il y a de plus en plus de demandes à cause du vieillissement de la population.
Et d'autre part, on manque de plus en plus
de personnel. Alors là, ça fait de moins en moins de gens sur le plancher où le ratio de... et donc, en Belgique, les professions d'aide en soignants et d'infirmiers, infirmières restent en tête de la liste des métiers en pénurie et les voix commencent à s'élever là-bas. L'éducation sexuelle et handicap.
Oui, en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant qui vient de sortir, qui s'appelle le programme Sous les draps, qui a été lancé donc en France, et on parle de l'association Créative Handicap qui a lancé ce programme-là. C'est un programme d'éducation à la sexualité pour les personnes en situation d'handicap, donc de petites vidéos interactives de maximum 3 minutes qui permettent de mieux comprendre certaines situations de la vie quotidienne par rapport, par exemple, au consentement pour que les personnes en situation d'handicap soient mieux mises au courant. On parle, entre autres, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, donc pour qui... l'éducation populaire ne serait peut-être pas adaptée.
Exact.
Et qui n'avait pas nécessairement de ressources pour se tourner vers autre chose. Donc, on parle de capsules qui sont faites en langage facile à lire et à comprendre et éventuellement, bientôt aussi, en langue des signes française.
Et peut-être ces capsules-là pourraient être disponibles dans un sens plus large parce que tout ce qui est électronique voyage très bien.
Oui.
Alors, c'est à suivre. C'est été créé par une initiative d'une association Créative Handicap installée à Nanterre. Alors, on va y aller. Au Sénégal, Yatma Fall, qui est un militant pour les droits des personnes en situation de handicap là-bas, s'est prononcé sur le manque de soutien de la part du gouvernement. Il y a eu, il y a quelques années, la mise en place... depuis 10 ans, d'une loi d'orientation sociale qui a été adoptée, mais semble-t-il que ça n'a pas donné grand-chose.
Oui, on a aussi signé la Convention sur les handicaps de l'ONU, donc en 2006 au Sénégal. Il y a signé les signataires, mais effectivement, on a 15% de la population au Sénégal qui est en situation d'handicap, et pourtant ça n'avance pas là-bas au niveau de l'accessibilité, au niveau même de l'acceptation
oui.
Des personnes en situation d'handicap. Il y a énormément à faire là-bas et effectivement on en parle que très peu.
Il y a encore beaucoup de difficultés liées à l'éducation, à la formation, l'accès à l'emploi, l'insertion, comme vous dites, l'insertion sociale dans un sens large, là, il y a eu beaucoup de belles intentions qui ont été émises. Le Sénégal, qui vient de connaître un changement de gouvernement qui s'est fait correctement, mais à un moment donné, ça brassait un peu dans la rue, mais une des démocraties qui fonctionne bien en Afrique.
Oui.
Alors, on souhaite que la transition avec le nouveau gouvernement se fasse bien, puis que cette levée de bouclier soit pertinente. Alors, c'est M. Yatma Fall. Il faut continuer à suivre ce dossier-là. Après la pause, Élisane, on revient chez nous?
Oui.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Ben, bon après-midi. Ça, semble-t-il, Élisane, c'est déjà l'après-midi.
C'est l'après-midi, François.
Voilà. Et on, pour la revue de presse, mais on revient chez nous.
On revient à la maison, donc on reparle, on en a parlé pas mal la semaine dernière, mais on en reparle, là, il y a prestation d'invalidité du budget fédéral qui fait des déçus. Il y a des personnes en situation de handicap qui disent que 2 400 $ par année, c'est trop peu. Et ils voudraient recevoir de ce montant chaque mois plutôt qu'une fois par année. Donc, ils s'attendaient à une prestation beaucoup plus élevée que celle que le gouvernement a offert.
Et il y a aussi le fait que les règles d'application, tout ça, font en sorte que le gouvernement semble cibler à peu près 600 000 Canadiens.
Oui. Alors qu'il y en aurait plus d'un demi-million, mais voilà, les règles sont très serrées, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont exclues de cette prestation-là. Et effectivement, ça cause problème parce que, vous le savez, les personnes en situation de handicap ont beaucoup plus de dépenses que les autres.
Et moins de revenus.
Oui, moins de revenus, voilà, ils sont surreprésentés au niveau de la pauvreté. Et donc... comme on disait la semaine dernière, c'est un pas en avant, mais c'est insuffisant pour beaucoup de gens, dont le groupe Disability Without Poverty, qui parle effectivement là qu'on a manqué la cible avec le gouvernement canadien, non seulement parce que il y a peu de gens qui vont avoir accès au final à cette prestation-là, mais aussi parce que ben, c'est trop peu d'argent, tout simplement.
C'est exact. Disability Without Poverty, handicap sans pauvreté, affirme, chiffre à l'appui, il y a 1,5 million de Canadiens vivant avec un handicap qui sont actuellement dans la pauvreté. Alors, c'est sûr que 1,5 million et 600 000 qui sont ciblés par une offre annuelle de deux. Et le 2 400, c'est pour suppléer à des programmes provinciaux qui eux-mêmes sont inégaux. On aura le plaisir la semaine prochaine d'avoir en onde M. Guillaume Parent, qui est le représentant à la table de Handicap sans pauvreté. C'est le représentant du Québec. Alors, on va pouvoir en parler encore plus en détail. Et il y a d'autres personnes, en fait, même qu'il y a un expert en matière de handicap qui a démissionné.
Oui, Michael Prince, qui est professeur de politique sociale à l'Université de Victoria, qui démissionne parce que, justement, il trouve que le Canada fait trop peu pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est malheureux dans l'optique où il y a quand même peu de spécialistes en matière d'handicap au Canada et donc on vient d'en perdre un.
Il faisait partie du groupe consultatif fédéral.
Voilà.
Donc, le gouvernement l'avait appelé pour mieux comprendre la situation. Puis lui, ben voilà, il est déçu au point de dire de claquer la porte, de dire au gouvernement fédéral, vous n'avez pas compris.
Donc, le gouvernement réserve 6,1 milliards sur 5 ans pour gérer le programme et fixer la prestation annuelle de 2 400 par personne, ce qui équivaut à 200 $ par mois et à 6 $ par jour. M. Prince dit que c'est hautement insuffisant et effectivement, comme on vient tout juste de le dire, que ça ne bénéficie pas assez à un grand nombre de personnes. Et effectivement, il pense que on rate la cible à ce niveau-là. Également, il dit qu'il n'y a aucune mention dans le budget d'effet significatif de cette prestations-là sur la réduction de la pauvreté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que ils savent à l'avance que ce n'est pas assez...
c'est pas suffisant,
c'est
on le sait.
C'est pas suffisant, on le sait. Donc, on ne mentionnera pas dans le budget qu'il va avoir un impact, puisque...
Il n'y en a pas.
Il n'y en aura pas.
Enfin, voilà. S'il y en a un, il est minime. Mais... Et ce qui est malheureux, c'est qu'une fois que le gouvernement aura, si on peut dire, coché la situation des personnes handicapées de leur point de vue, ben, ils ne vont pas revisiter le sujet. Ils vont plutôt aller devant les tribunes pour dire, voilà, nous avons fait quelque chose.
Oui, c'était plus un coup d'éclat pour du moins, c'est
pas mauvais, mais c'est tellement pas assez, puis c'est comme si ça nous donne l'impression que l'occasion de reprendre le débat se présentera pas de sitôt.
Non, donc on pense effectivement que c'était un coup de publicité pour le gouvernement fédéral, là, justement pour casser ça sur la liste, un peu comme vous le dites, François, mais qu'au final, est-ce qu'il y avait une réelle volonté? on se questionne. Après, il y a la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui a été questionnée sur le sujet, qui a défendu quand même le programme en disant que c'était un programme qui était historique, c'était la première fois qu'on mettait ce type de prestation d'avant, qu'on savait que c'était peu, mais que c'était pas dans la bonne direction et qu'on continuait les efforts pour être capable de donner plus et de faire plus pour les personnes en situation de handicap.
Et juste pour terminer sur ce sujet-là, parce qu'on en reparlera la semaine prochaine avec Guillaume Parent, dans les représentations qui avaient été faites auprès du gouvernement fédéral, les groupes qui représentent les Canadiens en situation de handicap avaient insisté pour que l'aide fédérale ne se trouve pas être un cadeau empoisonné et que cette aide soit conditionnelle au fait que les provinces ne puissent pas réduire leur propre soutien, parfois
oui,
parcellaire, sous prétexte que le fédéral envoyait un peu d'argent. Il fallait que ce soit en complément, mais il ne fallait pas que ce soit en substitution.
Oui.
Et dans le budget, cette condition
cette
financement
pas,
n'existe
ouais,
pas.
N'a pas été respectée. Donc,
exact.
Il n'y a rien qui empêcherait les provinces de réduire leur rapport en prétextant que le fédéral
s'en occupe.
Voilà.
Voilà. Alors, ça se peut que ce soit 2400 qui viennent remplacer 2400 qui, tout d'un coup, disparaît. Alors, tout le monde est à la case départ si une telle chose devait survenir. Alors, là aussi, il y a une faiblesse dans le processus. Malheureusement, on essaie d'avoir des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais la prochaine n'est pas tellement meilleure.
La prochaine n'est pas tellement meilleure, François. Vous connaissez à quel point j'aime faire mon Oreo. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, mais regardez, je peux pas toujours être parfaite.
Des fois, c'est ça.
Donc, on parle de maltraitance, d'éviction et de représailles pour la crise du logement dans les résidences privées pour aînés. En fait, la crise du logement cause des problèmes dans les résidences privées pour aînés. Il y a une étude de choc qui est parue au début de la semaine dernière par rapport aux résidences privées pour aînés qu'on appelle des RPA de l'agglomération de Longueuil.
Ça, c'est chez nous, ça.
Oui.
C'est chez nous.
C'est tout près de chez vous, François. Donc, effectivement, il y a des soins qui ont été omis. Il y a le diagiste, il y a une mauvaise reconnaissance des besoins des résidents. Il y a évidemment de mauvais soins qui sont apportés. On ne répond pas aux besoins. C'est la chercheuse Mélanie Couture de l'Université de Sherbrooke, chercheure chevronnée dans ce contexte-là, dans ce créneau-là, qui vient tirer à l'arme encore une fois parce que ça ne fonctionne pas. Les RPA, avec la crise du logement, là, ont beaucoup de pouvoir.
Oui.
On en parlait. C'est surtout au niveau des gestionnaires qui semblent avoir un problème.
C'est pas longtemps dans les médias, il y avait des drames qui étaient relatés qui semblaient mettre toujours en cause les préposés aux bénéficiaires, les employés. Mais là, c'est plus structurel que ça.
Oui, études montrent en fait que c'est les gestionnaires qui auraient un problème parce que justement, leurs pouvoirs sont décuplés. On explique en fait que parce que les personnes âgées n'ont pas d'autre endroit où aller, parce qu'on manque de place pour ces personnes-là dans les résidences pour personnes âgées et dans les logements, en fait, ils vont accepter inacceptable beaucoup plus longtemps parce qu'ils se sentent pris et qu'ils n'ont pas de deuxième option. Ce que ça fait, en fait, c'est que les gestionnaires ont énormément de pouvoir, peuvent augmenter les prix, peuvent donner un service qui est très en déçà, qui est très en déçà de ce qu'il devrait donner. Et, en fait, on n'a pas de mesures coercitives contre eux et les personnes vont être obligées d'accepter la situation parce qu'ils n'ont pas d'option B.
Que le gouvernement puisse agir et obliger une RPA à fermer si elle ne se conforme pas. Mais à ce moment-là, ça fait tant de chambres qui disparaissent du marché.
Oui, voilà. Donc, c'est pas nécessairement, évidemment, ce serait la bonne chose à faire s'il y avait des maltraitances, mais on ne réglera pas le problème parce que ces gens-là, on doit les relocaliser. Et c'est donc structurel. Moins on a de place pour ces gens-là, moins on a d'options pour ces gens-là, plus les gestionnaires ont du pouvoir sur eux. Et on parle évidemment des coûts qui sont augmentés énormément. À Montréal, là, on parle de 2 à 3 000 $ par mois. Ça peut monter jusqu'à 10 000 $
Ouf!
Il faut compter 900 à 1000 $ par mois pour les pièces qui sont à l'extérieur de Montréal, donc en banlieue. Ça ne compte pas, évidemment, les services qui sont en ajout.
Oui, parce qu'il y a comme des services qui sont à la carte.
Oui.
Et qui sont parfois détaillés là, jusqu'au dernier petit tampon.
Oui, disons qu'il a pris de base.
Oui, voilà.
Il a pris de base, ça n'inclut pas grand-chose, François.
Exact.
Et on parle en avril 2022, on avait des modifications qui ont été apportées à la loi pour contrer la maltraitance avec des sanctions plus sévères les propriétaires coupables de maltraitance de représailles. Par contre, à ce jour, François, la loi n'a pas été utilisée. Donc, les modifications qui ont été faites dans la loi n'ont pas été utilisées.
On écrit avec des plus gros traits pour que ce soit bien compris, mais finalement, il n'y a pas d'application. Quoi qu'il en soit, si... vous êtes mis au courant d'une situation qui est intenable et qui est injuste. Il existe une ligne d'aide maltraitance adulte aînée. La ligne d'aide maltraitance adulte aînée, le numéro est le 1-888-489-2287. 1-888-489-2287. Voilà. On fait une pause, puis on reste sur la Rive-Sud, mais avec une meilleure perspective. Voilà. Mais il y a des bonnes choses quand même. On parlait de la maltraitance sur la Rive-Sud, mais à Longueuil, il y a quand même quelque chose de positif.
Oui, ben je vous ai trouvé du positif. Vous me connaissez, François. J'aime le positif. Il y a le transport adapté qui s'électrifie grâce à Taxi par adapté. Donc, effectivement, le jour de la Terre, le 22 avril, on a annoncé que Taxi par adapté allait électrifier son parc automobile.
Bravo.
Qui dessert la Montérégie Est. Et cette région avec Exo, entre autres, qui permet évidemment de rouler plus vert et donc aussi d'améliorer l'offre de services en transport adapté pour les usagers.
Et après la Montérégie, Taxi para-adapté, dis-je, est ambitieuse et voit grand et compte poursuivre sa transition vers l'électrification cette année, notamment en ajoutant des berlines zéro émission sur les trajets qu'elle dessert pour la Société de transport de Montréal et ailleurs. Bon, mais c'est à suivre. Il y a aussi le fait que les véhicules électriques, je dois dire, sont plus confortables parce qu'ils ne vibrent pas quand ils sont à l'arrêt et dans un contexte il peut y avoir des bouchons de circulation aussi, là, c'est un environnement qui...
Je ne sais pas de quoi vous parliez, je viens de la Rive-Nord.
Peut-être un jour s'y rendront-ils?
Oui, peut-être un jour. On n'est pas très fort sur le transport d'été, par contre. Mais cela dit, on a aussi un Véco Taxi Collectif, qui est une organisation connexe à Taxi Parents Adaptés, qui offre un service qui est en main de transport adapté, qui vont donc lancer leur application et les villes vont pouvoir donc commander du transport adapté sur mesure, qui est en main, et ça va permettre aux petites villes et aux villes moyennes, donc qui n'ont pas nécessairement les moyens d'offrir
un service déjà
du transport adapté, de l'avoir un peu plus créé en main. Donc, ce n'est toujours pas fait, mais c'est peut-être quelque chose, effectivement, à réfléchir qui va amener une option supplémentaire.
Et on parlait tout à l'heure à M. Schneeberger, le député de Drummond-Boisfranc, qui est en train de mener une consultation à l'envergure du Québec, justement, sur le transport adapté. Alors, peut-être que ça se rendra jusque-là. Ah, se faire comprendre, hein, c'est pas toujours facile.
Bienvenue dans ma vie, François. Donc, effectivement, les bègues et souris muets ont des difficultés à se faire comprendre par l'intelligence artificielle. Donc, entre autres, par des programmes comme Siri ou Alexa.
Ah, oui.
On peut aussi penser donc au programme de Google, qui effectivement, ils ne comprennent pas lorsqu'on a un défaut de diction.
Ça prend pas grand-chose.
Je vous confirme.
Il suffit juste d'avoir une hésitation dans la voix ou une mauvaise intonation si on est un peu pressé, si on est dehors, par exemple, puis qu'il y a du vent. Tout de même, donc, les personnes qui ont des difficultés d'élocution ou des intonations, je dirais, qui sont pas normatives.
Comme les personnes bègues, par exemple, qui vont répéter un mot ou enfarger certaines syllabes, pour les service de d'intelligence artificielle vocale.
Ça va être difficile
de comprendre, en fait. Donc, ces personnes-là ont de la difficulté à utiliser les services. Et on peut penser, en fait, que des personnes à mobilité réduite, donc l'intelligence artificielle pourrait aider parce que au niveau des déplacements, au niveau des manipulations, c'est plus difficile. Donc, ils pourraient être portés à se servir de ce type d'intelligence artificielle pour ne pas avoir à se déplacer. Donc, demander au téléphone, là, par exemple, de faire des commandes à leur place pour ne pas avoir à taper trop sur le clavier. Mais ces personnes-là, s'ils ont un défaut d'élocution en plus d'un problème moteur, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas utiliser ce type de service, ou à tout le moins que ça devient difficile pour eux de se faire comprendre.
Et évidemment, la difficulté vient du fait que les problèmes d'élocution peuvent avoir différentes formes, différentes conséquences. Alors, de former l'intelligence artificielle prendrait ou requiert des dizaines de milliers d'heures d'écoute pour que l'intelligence artificielle apprenne à reconnaître telle ou telle intonation et offrir un service qui est adéquat. Une chercheuse américaine elle-même qui vit avec un bégaiement, Xiaomi Wu, qui est une chercheuse californienne qui a fondé la firme Alm Power, Alm Power, qui cherche à trouver des solutions.
Ce qu'elle explique, en fait, François, c'est qu'effectivement, on n'a pas assez de bases de données langagières qui a des personnes qui parlent un peu différemment, donc avec des intonations différentes ou avec un bégaiement ou avec des troubles de la parole. On n'a pas assez, donc, de ces gens-là sur les bases de données langagières pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc, on parle, donc, il y a quelques bases de données qui, effectivement, ont ce type de paroles-là à l'intérieur, mais on parle de bases de données qui ont une cinquantaine d'heures, alors que ça en prend des milliers.
C'est vraiment très peu. 50 heures, là, ça doit faire créer un pourcentage d'erreurs tellement élevé que finalement, ben, ça ne sert plus à rien. Toujours dans le domaine de l'audition et de ce qui s'y rattache, l'Université Laval et l'Audio Campus de l'Université de Montpellier.
Oui, l'Université Laval et l'Université de Montpellier qui vont mener conjointement une étude afin de mieux comprendre ce qui déclenche le primo-appareillage chez les personnes malentendantes. Primo-appareillage, c'est un grand mot pour dire que la première fois que tu as des appareils auditifs, des appareils d'aide à l'audition. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là vont choisir d'aller vers ce type de service-là pour la première fois?
Ah, d'accord. C'est un questionnaire en ligne qui va recueillir les expériences des utilisateurs d'aide auditive et des personnes malentendantes qui ne sont pas encore équipées. Les chercheurs ont fixé une série d'objectifs déterminés et comparé les taux d'adoption et de satisfaction en France et au Québec, de décrire les services reçus et la satisfaction et voir s'il y a une causalité. Identifier les facteurs liés aux services et les types de participation et évaluer la participation sociale et la qualité de vie des utilisateurs de prothèses auditives. Alors ça va certainement faire parler passablement parce qu'il y a il y a toutes sortes d'opinions à ce sujet. Et dans le même créneau, l'Université de Montréal a fait une étude intéressante.
Oui, en fait, j'ai de la suite dans les idées cette semaine, François. Donc, Béatrice Saint-Cyr Leroux, qui est une doctorante, donc qui est en train de faire un doctorat, qui a trouvé une étude, en fait, ses recherches la portent à croire que les bienfaits sur le développement du langage et de la mémoire à apprendre le langage des signes à un enfant qui est sourd très tôt, avant l'implantation cochléaire. En fait, il y a une croyance qui dit que dès qu'un enfant est diagnostiqué comme étant sourd, on doit lui apprendre, on doit lui parler avec un langage normal, donc avec la voix, dans l'optique si on veut lui mettre un implant cochléaire, donc de commencer à y habituer rapidement pour qu'il soit capable donc d'entendre et de comprendre, de parler le plus rapidement possible. Par contre,
mais c'est tout le contraire que l'étude.
Oui, voilà. Béatrice Saint-Cyr Leroux, son étude montre le contraire, en fait, c'est-à-dire que pour les personnes qui auront un implant cochléaire et qui sont diagnostiquées comme étant sourds. Il y a tout l'avantage à apprendre la langue des signes très tôt, parce que ça va les aider au niveau du développement du langage et de la mémoire. Et contrairement à ce qu'on pense, ça n'empêchera pas d'apprendre la langue normale, donc le français ou l'anglais normal pour ces gens-là.
Et c'est intéressant parce que, en fait, ça fait partie du développement de l'enfant. Les résultats montrent qu'une initiation précoce à la langue des signes améliore non seulement les compétences en vocabulaire parlé, mais aussi la morphologie, la conscience phonologique, la mémoire phonologique et la grammaire expressive. En un mot, sans une communication visuelle, les enfants sourds à la naissance sont privés de toute forme de communication. Si on ne leur parle pas avec la langue des signes, comment communiquer? Et nous savons que la familiarisation précoce à une langue, quelle qu'elle soit, permet d'activer les systèmes neurocognitifs innés, parce que le cerveau de l'enfant est encore en développement, et ces systèmes neurocognitifs innés qui sous-tendent le langage. Alors déjà, en utilisant la langue des signes, même si un implant cochléaire est en projet, exact, au moins le cerveau de l'enfant va être stimulé à reconnaître et à utiliser une langue, quelle qu'elle soit. Et la période propice à l'activation des systèmes se situe dans les 12 premiers mois. Alors, dès le début, langue des signes, même si c'est question d'implant plus tard, la langue des
ça
signes...
Ça ne nuira pas, même que ça va beaucoup aider.
Tout à fait. Ben bravo, c'est une étude intéressante parce que
ça détruit des mythes. Donc effectivement, Béatrice Sachary-Leroux, qui est au doctorat, qui vient de faire un coup de circuit.
Oui, on peut dire ça. Avant de terminer, je veux mentionner que BrailleTab, TAB Technologies, qui est une société de Longueuil à but non lucratif, qui propose gratuitement à ses membres une bibliothèque de partitions de guitare en braille et des cours de guitare adaptés pour les personnes qui sont en situation d'handicap visuel. BrailleTab est une société qui offre essentiellement, c'est la seule entreprise connue à travers le monde qui offre une formation et des partitions en braille pour des personnes qui veulent prendre des cours. À ce sujet, ils s'associent à l'INCA et du 9 mai au 27 juin, tout ça c'est des jeudis, de 10h30 à midi en présentiel et en Zoom. Les lundis 6 mai ou lundi 17 juin, de 10 à 11h, il y aura des cours à BrailleTab avec l'INCA. Alors ça, c'est à suivre. On peut rejoindre Jean-Pierre Lessard au 514-248-6872. Voilà, c'est dit. Ben, Élisane, merci encore.
Merci beaucoup, François.
Merci à Mathieu Tessier et Claire Guérin, sans lesquels rien de tout cela ne serait possible. Voilà. Tout le monde, la semaine prochaine.